Bon, quand Philippe m'a demandé de venir présenter ce petit exposé, voilà, d'habitude je le présente en 2 heures à peu près. Il m'a dit tu as 3 quarts d'heure. Oups. Voilà, bon, on va essayer. Juste, j'ai fait donc un petit résumé. J'ai donné à Philippe un PowerPoint un petit peu plus complet, notamment avec beaucoup plus de versets que ce que j'aurai le temps de vous présenter là, pour étayer quand même ce qu'on va voir. Et donc, il est disponible pour tous ceux qui le désirent. Il n'y a pas de problème, vous pourrez le regarder. Et il y aura des compléments par rapport à ce que je n'aurai que le temps de présenter ce matin. Voilà. Votre frère, tout à l'heure, il a parlé un petit peu là, de Noël, et puis de ce Messie qu'on attend. Et il faut savoir qu'il y en avait qui attendaient le Messie. Voilà, c'était ces mages, vous savez, qui sont venus de l'Orient. Alors, la tradition veut qu'ils étaient trois, alors peut-être parce qu'il y a eu 3 présents qui ont été offerts à l'enfant Jésus. Voilà. Qui étaient-ils? Voilà. C'était des astrologues, mais dans le sens noble du terme. Voilà. Mais n'ayez pas peur, ce matin, nous n'allons pas faire de l'astrologie telle qu'on l'entend aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire non plus un cours d'astrophysique, j'en serais incapable. Voilà. Et parce que bon, c'est un petit peu trop loin pour un géologue qui a plutôt les pieds sur terre. Hein. Voilà. Quand j'ai découvert un texte ancien qui avait été remis à jour, j'ai découvert effectivement quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce texte, là, vous verrez les références à la fin, là, la personne va parler des constellations, et notamment à partir du livre de Job, voilà, où donc quand Dieu se révèle à Job, voilà, tel qu'il est, que Job connaissait, mais que son œil n'avait pas vu, voilà, il va comprendre beaucoup de choses. Parce que à cette époque-là, les gens, et on a perdu, peut-être l'humanité a perdu ça aujourd'hui, c'est cette possibilité de pouvoir contempler les œuvres de Dieu dans la nature. Voilà. Alors la nature, très souvent, on pense que c'est plutôt les plantes, les animaux, mais quand on lève la tête, ben, au-dessus de nous, on a l'évangile qui est raconté. Et ce discours, en fait, qui est dans l'évangile, ben, depuis que l'humanité existe, il est présent dans les cieux. Voilà. Et c'est un petit peu ce dont je voudrais vous parler ce matin. Donc, on connaît tous là ce verset dans les Romains, hein, qui dit qu'aucun homme ne peut être excusable de ne pas croire au moins en un créateur, voilà, devant les merveilles qui sont devant lui et qu'il peut contempler. Voilà. Alors nous, on va voir les merveilles ce coup-là en levant les yeux. Hein. Voilà. Et justement, ce qu'on va voir va permettre de comprendre ce verset qui est tiré du psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, si Dieu nous parle des cieux, c'est que dans les cieux, il y a quelque chose. Voilà. Alors, on peut dire oui, c'est magnifique, voilà, c'est l'œuvre de Dieu par ce côté-là. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est vraiment un discours complet qui est dans le ciel. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la parole, il nous a dit à un moment donné que Dieu a laissé à l'homme le choix de choisir un nom pour les animaux. C'est l'homme qui les a nommés. Hein? Dieu les a fait passer devant Adam et Adam les a nommés. Voilà. Par contre, Dieu s'est réservé le fait de donner un nom aux étoiles. Et on va comprendre pourquoi. Parce que ça aurait été l'homme. En fait, c'est ce que font aujourd'hui les astrophysiciens. Ils vont découvrir une étoile, ils vont lui donner le nom, EX numéro 150. Bon, c'est pas très romantique, voilà. Mais Dieu a donné un nom. Et si beaucoup de ces noms sont perdus aujourd'hui, dans leur signification, en fait, il y a les Arabes ont gardé les noms. On sait que l'arabe et l'hébreu sont très proches, hein, sont 2 langues sémitiques, voilà. Et on va comprendre dans ces noms également qu'il y a effectivement ce message de l'Évangile associé aux constellations. Et quand j'ai découvert ça, je vous dis, je suis vraiment tombé sur terre. Voilà. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Oui, il n'y a pas une étoile dans le ciel qui ne raconte le plan de Dieu. Et elle s'est complète. Alors, Je ne vais pas faire beaucoup de discours d'astronomie ou d'astrophysique, mais vous savez, alors, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quand la nuit, vous regardez le ciel étoilé, à condition bien entendu qu'il ne soit pas voilé, vous voyez une image, en fait, qui n'existe pas. D'accord? Tout simplement parce que vous avez des étoiles, la plupart d'ailleurs ne sont plus là où on croit les voir aujourd'hui par rapport à leur lumière. Elles sont tellement éloignées, voilà. Et ça, il faut bien le comprendre. Et ce que vous voyez dans le ciel, c'est comme si Dieu avait pris des photos tous les temps de, excusez-moi le terme que j'utilisais, millions d'années, ou centaines de millions d'années, voilà. Et que ces rhodoïdes, il les ait plaqués les uns sur les autres. Pour arriver au moment où l'humanité apparaîtra, Dieu permettrait à l'humain d'apparaître, eh bien, ce qu'on voit correspond à une histoire. C'est-à-dire, et on verra que cette histoire, c'est celle de l'Évangile. Donc ça, c'est déjà absolument extraordinaire. Voilà. Imaginons si le temps devait continuer, petit à petit, cette histoire va disparaître. Parce que les étoiles vont se déplacer. Voilà. Donc, les constellations... C'est juste une image fictive dans le ciel qui raconte quelque chose et que l'homme a utilisé depuis la plus haute antiquité. Voilà. Et ça, il faut bien le comprendre. Et cette histoire, en fait, c'est Dieu qui l'a voulu en faisant en sorte que les étoiles, petit à petit, permettent, celles qui sont éloignées, celles qui sont proches. Parfois, dans les constellations, il y a des étoiles qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais par contre, elles dessinent, d'accord, quelque chose qui est un discours. Voilà. Alors voilà un petit peu le ciel, tel qu'on peut le voir. Alors, je ne sais pas à quelle époque ça a été pris, mais vous allez retrouver là-dedans les principales constellations. Alors il y en a quelques-unes qui sont très connues. Si je vous dis Orion, vous connaissez peut-être. Bon, si je vous parle des signes du zodiaque, oula, tout de suite, là, vous allez dire de quoi il va nous parler. Voilà. Et vous connaissez, faites pas semblant de ne pas les connaître, les signes du zodiaque. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Et c'est là où, quelque chose qui est très intéressant, c'est que Dieu a permis, à travers ses constellations, de raconter une histoire. Mais l'homme a mis son grain de sel au milieu de tout ça et a perverti cette histoire. Et aujourd'hui, eh bien, les signes du zodiaque, on va s'en servir pour faire des prédictions. On va faire de l'ésotérisme, on va faire de l'astrologie, dans le sens négatif du terme. Astrologie, c'est étude des astres. C'est ce qu'on va faire, nous. Mais l'astrologie, aujourd'hui, veut dire autre chose. C'est pour ça que les scientifiques ont pris le terme d'astrophysicien. Ça fait un peu plus sérieux. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une histoire. Alors, je vais le redire tout de suite. Mais, par exemple, si vous commencez à prendre des signes du zodiaque, lequel est dans les horoscopes en premier? C'est le signe du bélier. Et si vous regardez tout ça, ça ne veut plus rien dire. Or, dans la plus haute antiquité, je vous apporterai la preuve tout à l'heure, le premier signe du zodiaque était le signe de la Vierge. Et du coup, quel était le dernier? Le lion. Vierge, lion, ça vous rappelle peut-être des choses dans la Bible. Voilà. Donc, Joseph Seil, c'est ce gars qui avait donc écrit ce texte, voilà, et qui va remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça et montrer quel est le plan de Dieu écrit depuis le début pratiquement de la création, ou juste avant que l'humanité n'apparaisse, ce message dans le ciel. Voilà. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Voilà, donc les signes du zodiaque qui commencent par le bélier, alors qu'en fait, le premier dans l'Antiquité, c'était celui-là. Et puis petit à petit, les hommes ont tout changé pour que ce message ne veuille plus rien dire. Voilà. Donc, voilà. Alors, ça, pour étayer, vous savez que les Égyptiens, qui étaient vraiment de grands astrologues, dans le sens d'ailleurs noble du terme, et puis dans le sens aussi un petit peu plus dérivé, voilà, connaissaient tout ça. Et pour protéger la grande pyramide, notamment de Gizeh, eh bien, ils ont mis un symbole, un personnage, qui est à la fois le résumé de tous les signes du zodiaque. C'est le Sphinx. Parce que le sphinx, qu'est-ce qu'il a? Il a une tête de femme. On voit la Vierge. Il a un corps de lion. Voilà. Et il était devant la constellation de la Vierge à l'époque. Alors, on en parlera rapidement tout à l'heure. à cause du fonctionnement de notre planète sur elle-même, s'il y en a qui connaissent le mécanisme de précession des équinoxes, eh bien on sait qu'aujourd'hui, après quelques milliers d'années, le Sphinx ne regarde plus cette constellation. Mais à l'époque, il l'a regardée. Et en raisonnant comme ça, on peut savoir à quelle époque il a été construit, justement. Il a été bâti. Voilà. Donc ça, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une constellation? J'ai dit un petit peu, hein, c'est tout à l'heure. C'est un agencement d'étoiles qui dessine quelque chose qu'on a interprété comme une image, voilà, et auquel on a donné des noms. Voilà. Et puis, au milieu de ces constellations, il y a des étoiles qui ont des noms bien particuliers. Voilà. Dieu va parler à Job et très souvent, justement, se présenter, se révéler à travers les constellations. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Voilà, il parlait d'un animal. Son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. Tiens, le serpent fuyard, ça nous parle aussi de quelqu'un, ça. Le serpent ancien, ça nous parle de Satan, l'adversaire. Voilà. Ce sont là les bords de ses voies. Ces versets donc expliquent que les constellations ont été conçues pour enseigner aux premiers hommes le plan de rédemption de Dieu, et qui était présent alors même que l'homme n'était pas encore véritablement apparu sur la terre. Donc, Dieu sachant toute chose, il avait déjà ce plan de rédemption inscrit dans le ciel. Et ça, c'est assez intéressant. Voilà. Et les deux versets, peut-être, sur lesquels je m'étendrai un tout petit peu plus ce matin, c'est vraiment cette révélation qu'à la fin du livre de Job, Dieu donne, d'accord, il se révèle, et il va dire des choses qui, pour Job, devaient être absolument incompréhensibles. « Noues-tu les liens des Pléiades ?» Qu'est-ce qu'il veut dire ?« Ou détaches-tu les cordages de l'Orion ?» C'est assez mystérieux comme texte. « Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque ?» Tiens, il parle du zodiaque. « Et conduis-tu la grande ours avec ses petits ?» Alors, il y a tout de suite, avant de parler même de qui est Orion, de qui sont les Pléiades, vous savez, Orion, c'est une grande constellation qui représente pratiquement le tiers du ciel. Voilà. On la voit beaucoup plus en hiver qu'en été, d'ailleurs. Hein. Hier, quand on a quitté Grenoble très tôt le matin, Orion était juste au-dessus de nous. Là, parce que nous, hier, on n'avait pas un seul nuage à Grenoble. Voilà. C'est des étoiles qui dessinent une espèce de grand rectangle qui symbolise un personnage. Voilà, ce personnage, bien entendu, il a des bras, il a des pieds. Alors, il faut avoir quand même un petit peu d'imagination. Enfin, c'est tout le temps. Et puis, surtout, on reconnaît bien Orion parce qu'on voit ces trois étoiles bien alignées qu'on appelle la ceinture d'Orion. Et l'astrophysique, tout récemment, a découvert que les trois étoiles qui constituent la ceinture d'Orion allaient, chose unique dans l'univers, à la même vitesse, dans la même direction. Donc, je veux dire, de tout temps, il est impossible de pouvoir modifier cette image. C'est quand même assez révélateur. Hein ? Détaches-tu les cordages de l'Orion ? Ou la ceinture d'Orion, enfin voilà, suivant les traductions. Noues-tu le lien des Pléiades ? Orion étend sa main vers un petit groupe d'étoiles. Il y en a sept étoiles. Tiens, ça vous parle de quelque chose. Alors, dans la constellation elle-même, avec des télescopes très puissants, il y a beaucoup plus que sept étoiles. Mais à l'œil nu, quelqu'un qui a une bonne vue, c'est-à-dire qui est plus jeune que nous, d'accord, peut voir sept étoiles possibles. Voilà. Et ces sept étoiles, Orion les tient dans sa main. Noues-tu les liens des Pléiades ? C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de retenir ces sept étoiles qui, contrairement à la ceinture d'Orion, vont chacune dans toutes les directions de l'univers ? Alors, ces étoiles qui sont très peu brillantes, hein, il faut les regarder, vous savez, un peu de côté, là, pas directement, sinon on ne les voit pas, hein, ce petit... Voilà. Et puis, ben, on va voir aussi les signes du zodiaque. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé, là, des précessions des équinoxes. On verra que c'est assez important pour certaines choses, pour les comprendre aussi. Voilà, notre Terre, elle tourne autour d'un axe. Voilà, on le sait, hein, voilà. Mais cet axe, en même temps, il a un mouvement de toupie. Voilà. Ce qui fait que tout... les 12 500 ans à peu près, notre planète n'est pas orientée de la même façon par rapport au Soleil. Donc ça a une incidence, entre autres, sur le climat. Mais ça, on ne nous en parle pas aujourd'hui, puisqu'on est seul responsable du changement climatique. Bon, excusez-moi. Voilà. Et les étoiles vont nous raconter une pièce de théâtre. Un drame, en quelque sorte, mais qui se termine bien, n'ayez pas peur. Voilà. Jean pouvait lire dans le ciel ce conflit entre le Fils de Dieu, né de la Vierge, voilà, semence de la femme, et puis celui qui aimerait être son équivalent, le fils de celui qui a voulu ou qui aimerait être Dieu à la place de Dieu, Satan. Et on connaît sous le nom, nous, de Antichrist, mais dans les constellations, il est représenté par un scorpion. Voilà, semence du serpent. Et puis, bien entendu, le père du scorpion, c'est ce serpent fuyard, et on le verra justement, qui s'enfuit de ce personnage d'Orion et qui, à la tête, qui se dirige vers le sud. Alors là aussi, quelque chose, je n'aurai pas le temps de le développer. Le sud a toujours été un symbole de l'enfer. Le nord, et il y a plusieurs versets là qui l'attestent, tu es mon nord à un moment, on va dire, je sais pas, un personnage à Dieu. Le nord est un symbole plutôt du paradis. Donc ça, il faut le voir aussi un petit peu comme ça, hein, d'accord. Et on voit que ce serpent s'enfuit vers le sud. Voilà. Alors, il y a une autre constellation qui est très importante dans le sud, et où là, l'histoire des précessions est très importante, c'est ce qu'on appelle la Croix du Sud. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu l'équivalent de notre étoile polaire, parce que l'étoile polaire, c'est une étoile. Voilà. Et la Croix du Sud, c'est une constellation qui dessine une croix, voilà, qu'on ne voit aujourd'hui que dans des latitudes très basses de l'hémisphère nord, et qu'on voit surtout dans l'hémisphère sud. Voilà. Le Christ est représenté par diverses constellations dans le ciel, voilà, avec la Vierge qui va porter le Fils de Dieu, et le lion qui viendra détruire, donc un autre symbole qui est Hydra, symbole bien entendu de Satan. L'histoire va commencer à Bethléem, si on met bien entendu le signe de la Vierge en premier, voilà, et va se terminer avec le lion qui représente le roi, hein, de Juda. Le lion de Juda, le roi des rois, qui vient pour anéantir le serpent ancien, celui qui a tellement nui à la race humaine. Hein? Voilà. Donc, Orion et sa ceinture, on en a parlé tout à l'heure. Et, alors, Orion est un personnage qui est connu dans toute l'Antiquité. Les hommes ont fait un personnage, donc un héros dans le ciel, mais nous, ce héros dans le ciel, on peut le voir comme étant une représentation du Christ. Hein. Et il tend sa main vers un petit groupe d'étoiles qui s'appelle les Pléiades. Cette étoile, ça vous fait penser à quoi? Aux sept églises de l'Apocalypse. Et on va voir quelque chose d'assez bluffant dans un petit moment. Voilà. Donc Orion, d'un côté il a un arc, d'autre côté il tend sa main, c'est un chasseur hein, dans l'Antiquité, il tend sa main vers ce petit groupe d'étoiles qui s'appellent les Pléiades et qui représentent son église, enfin, dont il est amoureux. Orion, ce grand chasseur, Christ est amoureux de son église. Alors voilà la constellation, voyez. Et puis on retrouve le nom d'étoiles qui sont en fait des noms dérivés de l'hébreu ou de l'arabe, hein, comme Bethelgel, Bellatrix, les trois étoiles de la ceinture d'Orion, Alnitak, Alnilam et Metalka, et puis Saïf et Rigel. Ouais. Que veut dire Betelgeuse? Si on traduit, bon, je ne parle pas l'arabe couramment, hein, voilà, ni l'hébreu, ça veut dire l'arrivée de la branche. C'est intéressant ça, l'arrivée de la branche. Hein? Ça nous parle d'un certain rejeton. Voilà. Que veut dire Rigel? Le pied qui écrase. Oui. Tu seras blessé au talon, mais par contre, tu lui écraseras la tête. Et c'est de ce pied, de Rigel, que part ce serpent ancien, hein, dans les constellations. Bellatrix, venir rapidement. Ah tiens, ça aussi c'est intéressant. Hein? Je viens bientôt. Voilà. Et puis, Saïf, qui veut dire celui qui est meurtri. Il a été cloué à notre place, sur la croix. Voilà. une image de Christ venant en puissance et avec gloire, parce qu'il a été justement cette victime. Voilà. Donc dans la mythologie, Orion est un héros, bon, vous connaissez l'histoire, et puis l'histoire, là, le serpent, tu lui te blesseras, hein, mais par contre, toi, tu lui écraseras la tête. Voilà, vous regarderez, voilà. Les trois étoiles de la ceinture d'Orion, qu'est-ce qu'elles veulent dire? La première veut dire ceinture, la deuxième rang de perles, la troisième baudrier. Voilà, ces trois noms parlent de la vérité. Hein. Ceinture, dans les armes du croyant, la ceinture, c'est la ceinture de vérité. Rang de perles, qui peut nous parler aussi du chemin, mais les perles, c'est la notion de vérité. Celui qui a trouvé une perle de grand prix, hein, il vend tout ce qu'il a pour pouvoir se l'acquérir. Voilà. Et puis le baudrier. Le baudrier, vous savez, c'est une ceinture sur laquelle on attachait l'épée. L'épée qui va nous parler de la parole aussi. Voilà. Et en fait, dans ces trois étoiles, on peut également retrouver la notion de « je suis le chemin, la vérité et la vie » dans cette ceinture d'Orion. Trois qualités qui sont indispensables. Jésus ne pourrait pas être le chemin s'il n'était pas la vérité. Et s'il n'était pas la vérité, il ne pourrait pas nous mener jusqu'au Père, il ne pourrait pas être la vie. C'est pour ça qu'il est dit que c'est impossible de dissocier ces trois étoiles de la ceinture d'Orion. Voilà. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi-même. Voilà. Donc d'Orion part cette grande constellation qui s'appelle Éridan. On en reparlera tout à l'heure si on a le temps, qui se dirige vers le sud et... Ça nous montre également ce grand fleuve de feu qui, suite à la victoire de Jésus, mène en enfer Satan et sa semence. Voilà. Et on verra que Éridan est une constellation très importante dont la queue de serpent s'enroule dans un tiers des étoiles du ciel. Quand même intéressant aussi, hein ? Ça nous ramène à certaines allusions dans le livre de l'Apocalypse. Hein ? Un tiers des étoiles a chuté avec Satan. Donc les Pléiades, vous voyez ce petit amas là, voilà, qui n'est pas très lumineux, mais qu'on a. Si vous arrivez à reconnaître Orion, ce qui est assez facile, vous cherchez un petit peu sur sa droite, d'accord, et vous trouverez ce petit amas, voilà, peu perceptible, mais voilà, et qui parle d'Orion. Voilà. Sept sœurs aimées par Orion, ce sont l'image des sept églises de l'Asie mineure. Voilà. Nous tu les Pléiades, dit Dieu à Job. Voilà. Et quelle est la mission, justement, de ces églises? Aller partout dans le monde pour apporter la bonne nouvelle. Partez dans toutes les directions. Voilà les sept églises de l'Apocalypse. Vous avez vu leur disposition? Regardez les sept étoiles de la constellation des Pléiades. C'est un copier-coller. Il faudrait que je fasse le montage pour le remettre dans le bon ordre et bien voir que, en fait, les sept étoiles qu'il y a dans les Pléiades dessinent géographiquement la même disposition que les églises du Moyen-Orient, enfin de l'Anatolie Ouest. C'est quand même assez curieux, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, hein, voilà la constellation d'Orion. Donc il tient une flèche. Voilà. Cette flèche nous rappelle, vous savez, ce cavalier-là, hein, son cheval blanc avec un arc. Et en même temps, il y a son bras qui va vers les petites Pléiades qui est ici. Et entre les deux, on a une autre image de Christ, un autre aspect, qui est la constellation du taureau. Et on verra que le taureau, c'est celui qui vient comme vainqueur, qui vient pour juger. Dans la Bible, quand il est parlé de jugement, très souvent, c'est le taureau qui est mentionné. Des taureaux de Bazan m'ont entouré. Bazan, dans la Bible, c'est le nom aujourd'hui d'une partie de la Syrie occupée par Israël, qui est le Golan. Voilà. Donc rapidement, je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant du zodiaque. On en a déjà dit deux mots. Il a une signification si on commence à parler du signe de la Vierge. Voilà. Donc, on va voir que cette pièce de théâtre est en trois actes. Chacune avec quatre étapes, quatre scènes. Voilà. Signe de la Vierge. Voilà. Donc, je l'ai mis ici. une représentation, et voilà. Ce signe a été donné pour représenter la promesse de Dieu en Éden, hein, à la femme. Tu seras sauvée parce que tu enfanteras. Et là, c'est tout un raccourci où de Ève, un jour, sortira le Messie, qui lui sera le sauveur du monde. Voilà. La Vierge peut représenter également Israël. Israël qui est la nation qui va donner naissance au Messie qui sera le sauveur du monde. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il est dit au serpent, voilà, je mettrai inimitié entre toi et la semence de la femme. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Voilà. Donc ça, on le retrouve dans plusieurs passages. Et dans la constellation de la Vierge, l'étoile la plus brillante s'appelle Spica. Et Spica, on connaît parce que c'est dérivé du latin, on le retrouve également dans l'italien, Spica, c'est la branche. Donc, dans la Vierge, il y a une étoile qui s'appelle la branche, c'est-à-dire que c'est elle qui va donner naissance à ce fameux, cette branche sur laquelle on sera greffé, qui va donner ce rejeton, qui va renaître. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, hein, c'est-à-dire le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. La Vierge est associée à d'autres constellations, donc les signes du zodiaque, voilà, sont associés aux autres constellations qu'il y a dans notre ciel. Voilà. Et vous avez, par exemple, comme autre constellation, Coma. Coma qui veut dire désiré. Le Messie était attendu. Nous, on sait qu'il est venu, d'autres l'attendent toujours. Voilà. La constellation du Bouvier, qui est décrit comme un berger. Et ou un moissonneur, qui est le bon berger, qui est celui qui va moissonner. Et puis, la constellation du centaure. Qu'est-ce qu'un centaure dans la mythologie? Eh bien, c'est un être qui est mi-cheval, mi-homme. Et ça nous parle, le cheval de la puissance, hein, de la déité, et puis la tête d'homme. Et ça va nous parler des deux natures de Christ. Hein. Complètement homme, tout en étant complètement Dieu. Il n'est pas à moitié homme, moitié Dieu. Il est complètement homme, il est complètement Dieu. Après la Vierge, c'est la Balance. La Balance, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler de justice. Hein, voilà. Donc voilà, la Balance est associée à la justice. Et on se rappelle tous de cette histoire, vous savez, avec Daniel, devant le roi Belshazzar, voilà, qui festoyait, voilà, notamment avec les ustensiles du temple. Et là, il y a une main qui va écrire. Hein, tu as été pesé, tu as été trouvé un petit peu trop léger. Et donc, le royaume te sera enlevé. Deux étoiles principales dans la constellation de la Balance. Zouben al-Jelubi, on voit bien que ça c'est de l'arabe, hein, voilà. Le prix qui est déficient. Ça veut dire que aucun homme, par toute la volonté qu'il voulait mettre et par ses œuvres, est digne, voilà, de Dieu. Il reste trop léger dans la Balance. Mais à côté, il y a une autre étoile qui s'appelle Al Shemalizuben, qui veut dire le prix qui couvre. On n'est pas capable, mais quelqu'un a payé à notre place. Voilà. Et les deux sur la Balance, c'est bon, elle peut s'en penser. Il n'y a aucune chance que quelqu'un puisse gagner le salut par ses propres œuvres. Voilà. Seul le prix payé par Christ nous permet de pouvoir nous approcher de Dieu. Voyez un petit peu tout ce qu'on retrouve, hein, dans la signification. Trois constellations lui sont associées. La croix du sud, qui représente l'enfer, donc on retrouve la notion de jugement. Voilà. Lupus, le loup, qui s'appelait autrefois Victima. Victime, ça nous parle quand même, c'est direct. Et puis Corona Borealis, qui est la couronne du nord. Voilà. Celle qu'il a gagnée pour nous. Et on verra que, justement, dans les constellations, le serpent essaye de vouloir s'emparer de la couronne du nord. Mais ça, il n'y arrivera pas. Hein. Satan a voulu être l'égal de Dieu. Et du coup, eh bien, il a été déchu de ses fonctions, en quelque sorte. Voilà. Le scorpion, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ce n'est pas un animal très sympathique. hein, avec ses 8 pattes, ses pinces, et puis surtout le dard qu'il y a au bout de la queue. Et le scorpion, c'est un animal dont la piqûre est l'une des plus douloureuses qui existent, hein, même si peu de scorpions tuent véritablement, voilà. Mais en tout cas, c'est lui qui va blesser, d'accord, le pied du d'Orion. Le scorpion, voilà, qui va nous parler donc du de la semence de Satan, du serpent. Et ça veut dire que de toute éternité, il y a déjà eu, inscrit dans le ciel, quelque chose qu'on pourrait symboliser comme un antichrist. Voilà. Quelqu'un qui a voulu. Satan n'a pas voulu prendre la place de Christ. Il ne voulait pas s'abaisser jusqu'à nous, comme l'a fait Christ. Lui, son ambition, c'était d'être l'égal de Dieu. Mais comme il a voulu parodier Dieu, eh ben, il a fallu qu'il s'invente lui aussi un fils. Et ce fils, on le connaît, nous, sous le nom d'Antichrist, mais dans les constellations, il est représenté par le scorpion. Donc ça, c'est intéressant de voir ça aussi comme ça. OK? Satan a toujours essayé de plagier, de façon lamentable, le plan de Dieu. Voilà. Au cœur, d'ailleurs, du scorpion, il y a une étoile rouge qui signifie blessure. Hein? Il est la semence du serpent. Alors que le scorpion essaye de blesser le talon d'Ophiuchus, l'image de Christ, celui-ci lui écrase la tête. Voilà. Trois constellations lui sont associées, bien entendu. Eh bien, celle qui correspond à celui qui est son géniteur, le serpent ancien, l'adversaire, Satan, le diable, diabolo double, d'accord, comme vous voulez, voilà. Donc, Ophiuchus, lui, qui est par contre une image de Christ, qui empêche Satan de s'emparer de la couronne du Nord. Et puis, Hercule. Et Hercule, on va retrouver dans la mythologie grecque également, hein, qui va être inspiré de tout cela, mais qui vont en faire une histoire à leur sauce à eux. Voilà. Hercule, qui est une autre image de Christ. On connaît tous la mythologie de Hercule avec ses travaux et tout, voilà. Mais ça a toujours été un héros, parce que dans le plan de Dieu, il est représenté comme un héros, qui est une autre représentation de Christ. Il est en train de battre un serpent avec un bâton dans sa représentation habituelle. Constellation du Sagittaire. Alors, le Sagittaire, on a parlé un petit peu tout à l'heure avec une autre constellation qui en est très proche, qui est le Centaure. D'accord? Voilà. Et ça vous fait penser à quoi, ça? Ce fameux cavalier de l'Apocalypse qui sort comme un vainqueur avec un arc dans une main et qui va donc partir à la conquête. Voilà. Est une figure entre homme et cheval et qui nous parle des deux natures de Christ. Hein? Et cette image aussi nous rappelle qu'un jour notre Sauveur reviendra, hein, monté sur un cheval blanc. Jésus, sur la terre, il est rentré à Jérusalem sur un ânon, symbole de paix. Il reviendra sur un cheval qui est le symbole du jugement. On peut faire un cours sur les animaux aussi dans la Bible. Trois constellations sont associées au Sagittaire. Lyra, la harpe, qui parle des louanges méritées par le Sagittaire. Hein? Voilà. Ara, qui signifie c'est fini. Jésus sur la croix, juste avant de partir, de mourir, il dit c'est accompli. Et puis il y a Drago, le dragon, hein, qui est une autre image de Satan. Hein, qui est sinueuse, qui court un tiers de la circonférence du ciel, et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel en les jetant sur la terre. Et puis on voit qu'il est entraîné avec Éridan vers le sud, c'est-à-dire par ce fleuve, hein, de feu. Chez les Égyptiens, Tuban, l'étoile du grand dragon, indiquait le nord. Alors ça, c'est intéressant. À l'époque de l'Égypte ancienne, d'accord, il y avait à la place de notre étoile polaire, à cause du phénomène de précession des équinoxes, l'étoile polaire, à la place, il y avait une étoile de la constellation du serpent. C'est-à-dire que une époque, le monde était dirigé. L'étoile polaire, c'est quoi? C'est celle qui dirige. Elle dirige vers où? Vers le nord. Alors les marins la connaissent très bien. Voilà, c'est un repère. Mais si on voit que le nord représente également la présence de Dieu, le paradis, à cette époque-là, il y avait une autre étoile à sa place qui n'était pas l'étoile polaire qu'on connaît aujourd'hui. C'était une étoile qui s'appelle, donc on l'a vu, Tuban. Voilà. Et puis à cause du phénomène de précession, à peu près au moment où Jésus va venir sur la terre, eh bien, hop, l'image est légèrement transformée. Et à la place de Tuban, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile polaire. Et l'étoile polaire, on verra tout à l'heure, elle appartient à la petite ours. Mais essayer de retrouver dans le ciel la petite ours, ce n'est pas facile. Par contre, vous la retrouverez très facilement à partir de la grande ours qui est très visible. Et vous prenez 5 fois la longueur de la grande ours, d'accord? Et vous arrivez sur l'étoile polaire. 5 n'est pas un chiffre non plus complètement anodin, hein, dans le plan de Dieu. Voilà. On va passer rapidement. Fin de l'acte 1. Donc on a vu, là, c'est un petit peu le drame. Il y a la semence de la femme. Et puis, il y a semence du dragon. Et là, il va y avoir une confrontation entre les deux. Voilà. Et cette confrontation, eh bien, elle va se terminer par une victoire. Mais avant qu'il y ait cette victoire, il a fallu que notre Seigneur, donc, passe par la croix. L'acte 2, quel va être le résultat, donc, du premier acte? Ça va être la naissance de l'Église. Et l'Église va être représentée par les quatre autres signes qu'on va retrouver dans le zodiaque. Le Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire Capricorne? Ça veut dire corne de chèvre, quelque sorte. Mais il est représenté comment? À la représentation habituelle. Ça, c'est intéressant. Vous avez une tête de bélier qui est souvent prostrée. Et par contre, il y a une queue qui est celle d'un poisson. Si vous arrivez à retrouver un petit peu le symbole, c'est-à-dire que la tête va représenter la victime expiatoire. On a tous entendu parler du bouc Azraël ou l'autre, ce bouc émissaire qui payait pour les péchés du peuple à l'époque. Voilà. Et là, nous, c'est une image également de Jésus qui est offert comme sacrifice. Et quelle va en être la conséquence? Le poisson est une image de l'Église, du christianisme. C'est pour ça qu'après, ça va être repris par les premiers chrétiens, comme un symbole pour se reconnaître. Voilà. Il valait mieux dessiner que le dire à l'époque. Voilà. Donc là, peut-être, rappelle le bouc sacrifié et la queue nous parle des croyants. La tête représente Christ, chef de l'Église, celui qui a dû mourir, d'accord, pour nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père. Voilà. Et de là, donc, va naître l'Église. L'Église va naître d'une blessure que Jésus va avoir sur son flanc. Exactement comme Ève a été tirée du côté d'Adam. On retrouve le même symbole. C'est intéressant aussi. Alors, plusieurs constellations sont associées, comme Sagitta, qui nous parle de la flèche du jugement de Dieu contre le péché. Aquila, la chute de l'aigle, une des étoiles, veut dire blessé au talon. L'aigle est un symbole de Christ. L'aigle, dans la parole, c'est souvent aussi un signe de la résurrection. Voilà. Et puis, Delphinus, le dauphin qui saute de l'eau, ça aussi, c'est une image de la résurrection. L'eau qui est un symbole de la mort. Et hop, le dauphin qui sort, qui montre cette résurrection. Pour nous, on connaît aussi ce symbole sous le nom de baptême. Verseau. Celui qui verse de l'eau, ça nous fait penser à quoi, ça, cette eau? Des fleuves d'eau vive couleront de lui. Voilà. Mais également, le Verseau, c'est le symbole du Saint-Esprit, qui est déversé, Jésus, donc, par son sacrifice, d'accord, vous a dit, je vais vous envoyer un consolateur, et celui vous remplira, vous donnera donc l'eau, l'esprit, voilà, toutes ces images, hein, nous ramènent à cela. Jésus a dit, le Père en cherche de tels qui l'adoreront en esprit et en vérité. Voilà. Et il n'y a que l'esprit qui nous permet de savoir qui est la vérité. Qui est la vérité? C'est Jésus. Donc on ne peut venir au Père que par Jésus. Et ça, il n'y a que l'esprit qui est capable de nous le révéler. Mais cet esprit, c'est celui qui va nous rafraîchir. C'est celui qui va nous régénérer. C'est cette eau vive. Hein? Voilà. L'eau est symbole de vie et du Saint-Esprit. Autre conséquence, l'hydre représentée par les poissons. Hein? Alors vous connaissez tous, hein, le mot ictus en grec, hein, qui veut dire poisson, mais dans chacune des initiales, donc nous ramène également au sacrifice de Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ, fils de Dieu, voilà, sauveur. Quand Jésus marchait au bord du lac de Galilée, c'est pas par hasard qu'il a choisi également des pêcheurs. Et il dira à Pierre, je ferai de toi non plus un pêcheur de Saint-Pierre ou je ne sais pas quoi, qui peut y avoir dans le lac de Galilée, mais tu seras un pêcheur d'hommes. Voilà, le poisson est comparé, voilà, à celui, donc, comme mission, ceux qui appartiennent à l'Église, d'aller chercher ces âmes qui sont dans la mer, donc qui sont perdues, pour les extraire de la mer. Suivez-moi, je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Et puis vous avez le bélier, et le bélier va nous parler de quoi? Le bélier va nous parler, donc, est une image de Christ, l'agneau de Dieu. C'est celui également qui a les cornes les plus importantes, d'accord? Symbole de puissance. Voilà. Alors le bélier, nous on le connaît un petit peu dans nos montagnes. Avec le bouquetin, je ne sais pas si vous êtes trouvé nez à nez devant un bouquetin, c'est un animal qui n'a pas du tout farouche, mais quand vous voyez ses cornes, vous êtes relativement respectueux devant cette bestiole. Hein? Voilà. Donc ça montre quand même la puissance. Voilà. Et il a fait de nous, on l'a rappelé tout à l'heure, voilà, un royaume, il a fait de nous des rois. Hein? Voilà. Il est le chef de l'Église. Il est ce bélier qui est le chef de l'Église. Voilà, le bélier, ce ne sont pas des constellations qui sont toujours faciles à reconnaître. Vous voyez que petit à petit, le zodiaque prend une autre signification pour nous. Hein? Voilà. Une des étoiles principales, c'est Alpha Ari ou Amal, qui veut dire un agneau mâle, hein, qui aurait moins de 1 an. Et ça nous parle, hein, de cet agneau, hein, l'agneau de la Pâque, voilà, qui a été sacrifié, voilà, et qui est un symbole de Christ, qui sera sacrifié donc à notre place. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voilà. Ça, c'est la puissance. Hein. Et quand toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Acte 3. Donc, on a vu Soram, l'Église, on est là-dedans, d'accord? Et puis, eh bien, Jésus, notre Messie, notre Christ, d'accord, va revenir, mais il viendra maintenant, non plus monter sur un ânon pour apporter la paix par son sacrifice, mais il va venir maintenant pour juger le monde, pour juger ceux qui n'auront pas accepté ce sacrifice. D'accord? Et il va donc venir sur un cheval. Voilà. Et là, bien entendu, ce jugement est représenté par un des animaux les plus fougueux, peut-être, hein, qui est le taureau. Le taureau, voilà. Quand Jésus parle de ses ennemis, il les compare à des taureaux de Bazan, hein, qui étaient furieux et qui étaient autour de lui. Voilà. Et il faut qu'à l'époque, le Golan était une province où justement on élevait ces taureaux, voilà, qui étaient probablement des dérivés de ce qu'on appelle les Hurs, les bœufs sauvages de l'époque, hein, voilà, ou les Aurochs, comme vous voulez. Voilà, le taureau, hein, représenté là vraiment comme quelqu'un de très puissant. Voilà. Il représente le jour du Seigneur, celui qui viendra juger le monde. Voilà. Et là, il vaut mieux pas le connaître comme un taureau, il vaut mieux l'avoir connu comme ce bélier qu'on a vu tout à l'heure. Hein. mais il nous associera à sa victoire. Il nous a déjà associés. Voilà. Celui qui est venu une première fois hein, pour s'offrir en sacrifice reviendra pour juger le monde. Voilà. Hein. Symbole de puissance et de gouvernance. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Voilà. Dieu, notamment dans ses plaies qu'il a données aux Égyptiens pour les obliger, hein, il a été un petit peu comme ce buffle. Petit à petit, voilà, il est devenu de plus en plus furieux, hein, jusqu'au dénouement qui a été malheureusement la mort des aînés de tous les Égyptiens. Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu, sa colère et son juste jugement, révélera sa colère et son juste jugement. Voilà. Donc, hein, je n'ai pris que quelques versets, et vous en aurez beaucoup d'autres hein, dans le montage que fera passer Philippe. Voilà. Alors, associé au taureau, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc je ne m'étendrai pas dessus, vous avez la constellation de Orion, qui est représentée comme étant un sauveur. Voilà. Mais Orion, il tient également cet arc dans la main. Hein, voilà. Mais de l'autre main, il tient, c'est cette étoile qu'il veut protéger. Voilà. Donc la fureur de Dieu, la colère de Dieu, ne s'applique pas à ses élus. On est bien d'accord ? Elle est pour le monde. Elle n'est pas pour nous. On s'est redit sous d'autres termes dans l'Apocalypse. Hein. Tu ne toucheras pas l'huile, tu ne toucheras pas l'olivier. Enfin, voilà. La grande ourse est également associée au taureau. Et la grande ourse, dans l'Antiquité, était connue également sous le nom de bergerie. Donc vous aviez la grande bergerie, la petite bergerie. Jésus n'a-t-il pas dit à un moment donné, j'ai d'autres brebis d'une autre bergerie. Et je dois m'en occuper également. Alors la petite bergerie, elle nous fait penser à qui ? Dans la Bible, on va le retrouver dans l'Apocalypse avec les 144 000, c'est-à-dire Israël. Et puis, il est parlé également de la grande foule des nations. Et la grande foule des nations, c'est la grande ours. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, on l'a dit tout à l'heure, Jésus, représenté par l'étoile polaire également, celui qui est notre guide, il appartient, il est issu de la petite bergerie, c'est-à-dire d'Israël. Mais qui permet de le retrouver ? C'est la grande ours. Donc il y a beaucoup de choses très symboliques derrière tout ça. Hein, voilà. J'avais entendu une fois un frère qui était un juif qui s'était converti au christianisme. Voilà. J'aime pas dire juif messianique parce que ça a une autre connotation, notamment en Israël, qui n'a rien à voir avec celle qu'on donne nous ici dans nos pays, et qui disait « Nous les juifs, on vous a donné Jésus ». Mais vous nous l'avez fait connaître. Vous avez trouvé cette phrase qui était très très belle. Voilà. Et puis, on a bien entendu les Pléiades qui sont associées également au taureau. Il nous associe dans sa victoire, il nous associe dans son jugement. Il les dit à un moment donné qu'on jugera le monde avec Christ. Ne serait-ce que par le fait que nous, on a accepté Jésus. Et rien que par ce témoignage-là, on est déjà des juges devant ceux qui refusent d'accepter notre Seigneur. Voilà. Les Pléiades, ça parle de son Église, ça parle également du souverain sacrificateur, vous savez, qui portait sur le torse son pectoral avec les 12 pierres. Bon, ça c'est une autre histoire, mais on retrouve hein, quand même que c'était porté sur le cœur. Voilà. Donc, voilà, c'était quelque chose qui était très très cher. Les constellations qui sont associées, donc, c'est Auriga, qui est l'image du grand berger, au-dessus du taureau qui protège ses enfants. Au pied d'Auriga, il y a une étoile qui s'appelle Elnaf et qui veut dire le blessé. Et on retrouve toujours, hein, celui qui a été blessé, c'est celui qui est vainqueur. Celui qui a été blessé, c'est celui qui va régner. Celui qui est blessé, hein, c'est celui qui est notre rédempteur. Voilà. Orion, hein, qui signifie qui sort comme la lumière. Voilà. Il est une image du Sauveur qui revient en gloire, hein, comme un éclair d'un côté à l'autre de la planète. Et puis vous avez Eridanus, qui est la rivière de feu qui mène en enfer. Et ça, c'est le jugement pour ceux qui n'auront pas accepté Jésus comme étant leur Sauveur. Eh bien, ils sont entraînés dans ce feu Vers où? Vers le sud. Les Gémeaux. Donc là, on a plusieurs interprétations qu'on peut donner aux Gémeaux. Tu m'accordes encore combien de minutes, Philippe? J'en suis à moins quelque chose déjà. Bon. Voilà. Les Gémeaux. Vous connaissez le nom des Gémeaux? Castor et Pollux. Castor qui veut dire souverain ou juge. Et Pollux qui veut dire blessé, humilié. Donc celui qui a été blessé, celui qui a été humilié, c'est celui qui va devenir le juge. Et celui qui va régner. Là aussi. Voilà. C'est intéressant, hein? Voilà. Alors on peut voir aussi dans les Gémeaux, Christ associé à son Église. Voilà. Le cancer. Alors le cancer, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez répugnant, enfin, ça fait peur. Voilà. Le cancer, en fait, c'est un autre nom pour désigner le crabe, avec ses 10 pattes. Voilà. Mais le crabe, il a quelque chose de particulier, qui n'a rien à voir avec l'image comme on a fait aujourd'hui, du moins au niveau de la médecine. Le crabe est un animal qui régulièrement change de carapace. Et ça nous parle de la résurrection. Voilà. Alors dans l'Antiquité, le cancer, c'était un... L'insecte, c'était un coléoptère. Oui? Non. Bon, j'ai dû l'écrire. Voilà. Le scarabée, voilà, excusez-moi. Hein, le scarabée. Voilà. C'est joli, un scarabée. Ça fait peur à ceux qui en ont peur, mais... Il change de carapace. Et donc, c'est donc un symbole. Hein, changer de nature, voilà, c'est la résurrection. Voilà. Paul disait, j'ai hâte de changer de tente, en quelque sorte. Hein, voilà. Voilà. Car le Seigneur lui-même, avec un cri, voilà, à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Et en un instant, nous serons changés, nous serons ravis, donc, à sa rencontre. Voilà. Alors, je vais accélérer un petit peu. Voilà. Alors, juste si je voudrais quand même, hein, si je peux revenir en arrière. Voilà. Donc, ça, on l'a vu, hein, voilà. Sur l'étoile polaire. Voilà. Et c'est pour montrer, là, ce que je disais tout à l'heure, il y a un verset qui est dit, voilà, quand on parle de l'Éternel, tu es le véritable Nord. Parce que le Nord, dans les raisonnements de l'époque, c'était l'endroit où on est sauvé. Voilà, contrairement au Sud. Voilà. Et puis, bien entendu, on termine avec le lion. Le lion de Juda, celui qui va venir pour régner. Voilà, le symbole de David, le roi de Juda. Voilà, et c'est Jésus qui va revenir comme étant et son lion, c'est la bénédiction qu'a fait Jacob à Judas, son troisième fils, d'accord, ou au quatrième, pardon, voilà, puisque les trois premiers ont été déchus de leur, comment dire, de leur bénédiction en quelque sorte, hein, parce qu'ils avaient péché, voilà, et c'est Judas, voilà, qui va être l'ascendant, l'aïeul, hein, de Jésus, voilà. Il est venu comme l'agneau de Dieu, il reviendra pour régner comme le lion de Judas. Dans l'Apocalypse, quand Jean demande « Mais où est ce lion ?» Il se retourne, il voit un agneau immolé, comme immolé. C'est le même personnage. Et Jésus, il ne peut être ce roi de Juda que parce que il a été immolé. Il a pris la place d'un agneau avant toute chose. Il est le roi. Voilà. Donc ça, c'est les bénédictions qui ont été faites par Jacob à Juda. Trois constellations sont associées. Hydra, donc le serpent à plusieurs têtes, hein, qui veut dire abhorré, hein, celui qui est haï en quelque sorte. Hein, voilà. Donc celui qui va recevoir est associé, il y a cratère. Cratère, c'est un bol hein, dans l'Antiquité, qu'on a donné au nom là, des trous par où le magma sort pour les volcans. Et ça nous parle de la colère de Dieu. La colère de Dieu, donc, qui va s'effectuer sur... tous ceux qui auront fait allégeance, qui n'auront pas cru à Jésus et qui auront fait allégeance, au contraire, à l'ennemi. Et puis vous avez Corvus. Corvus, c'est le corbeau. C'est un animal qui est charognard et ça nous rappelle cette histoire, vous savez, où les oiseaux vont venir se repaître hein, de la chair de ceux qui auront été vaincus. Voilà. Ainsi, nous voyons le triomphe final du Fils de Dieu et la victoire consommée de la semence de la femme sur la semence du serpent. Alors regardez un petit peu, si on reprend rapidement tout ce qu'on a vu, la Vierge nous parle de la naissance du Rédempteur, ensuite nous avons la justice divine, l'ennemi à battre, les deux natures de Christ, la conséquence du sacrifice, l'Esprit Saint, les chrétiens, le chef de l'Église, le juge, son épouse, la résurrection des saints et enfin le roi. Voilà l'explication des signes du zodiaque, assez différente de celle qu'on utilise aujourd'hui quand vous ouvrez la page ne sais pas combien du journal. Voilà. Je terminerai juste avec un petit clin d'œil sur la Croix du Sud. D'accord. Il n'y a pas longtemps, en regardant un petit peu sur Internet les constellations, les astrophysiciens, ont remarqué qu'à cause de la précession des équinoxes, la Croix du Sud était visible depuis les confins de la Méditerranée. C'est-à-dire était visible depuis Israël, à l'époque où Jésus était là, était sur la Terre. Voilà. Aujourd'hui, cette constellation n'est plus visible du même endroit. Et il s'est passé 2000 ans depuis. Oui, ouais. Donc c'est quand même un phénomène qui a des répercussions à l'échelle de l'humanité. Voilà. Et alors qu'est-ce que ça veut dire ? La Croix du Sud, c'est un symbole de l'enfer. Une croix qui descend vers le sud. Voilà. Or, vous connaissez tous l'épisode de Jésus, qui avec trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, monte sur cette montagne, que la tradition qualifie comme étant probablement le mont Tabor. Voilà. Et puis en haut, ils vont voir Jésus dans sa gloire, d'accord, avec deux autres personnages, Élie et Moïse. Et si on estime qu'on est sur le mont Tabor, Élie, s'il regarde vers l'ouest, il va voir le mont Carmel, où il a remporté cette grande victoire sur les prêtres de Baal. Moïse, si lui regarde à l'opposé, il va plutôt voir le mont Nebo, qui aujourd'hui est en Jordanie, où Dieu l'a amené pour voir la terre promise dont lui n'avait pas accès. Il était le symbole de la loi. La loi ne pouvait pas rentrer dans la terre promise. D'accord ? Mais il l'a vu quand même. Et puis il y a Jésus. Et Jésus, au pied du Tabor, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a cette grande plaine qu'on appelle la plaine de Jisréel. Et dans cette plaine, il y a une petite butte sur laquelle il y a un village qui s'appelle Megiddo. Et butte de Megiddo, ça se dit Armageddon. Jésus, après avoir été glorifié, après, vous savez, donc, hop, Moïse et Élie disparaissent, et puis ils vont redescendre. Et en redescendant, Jésus voyait à cette époque-là la croix du Sud. Voilà. Qui descendait vers le Sud, et petit à petit, dans tous les sens du terme. Et comme s'il voulait dire, tu vois, il y a cette croix, tu vas être obligé d'y passer. Hein, et elle va t'amener jusque dans le Shéol, au moins. Et à tes pieds, tu as cette grande plaine d'Israël. Et là, c'est très symbolique, qui est le symbole de cette grande victoire que tu vas remporter à la fin des temps. Mais avant de remporter cette victoire, tu es obligé de passer par là. Et depuis aujourd'hui, la Croix du Sud n'est plus visible depuis cet endroit-là. C'est accompli. Voilà, Croix du Sud. Voilà, donc la conclusion, hein, donc les constellations ont été nommées par notre grand Créateur, et elles sont là, hein, depuis le début, voilà, pour nous parler de ce grand plan rédempteur, voilà, que Dieu avait en réserve, d'accord, pour l'humanité, et dont j'espère sommes tous les bénéficiaires ici aujourd'hui. Voilà. Donc voilà à peu près les textes qui ont inspiré. Voilà. Et puis donc, vous aurez un peu plus de compléments à ce que j'ai dit. Je suis désolé, j'ai peut-être un peu dépassé l'heure. C'était, voilà, j'ai fait en trois quarts d'heure ou un peu plus, ce qu'on me demande d'habitude en deux heures. Donc, c'est pas une prouesse qui est forcément très facile. Voilà, merci à vous.